Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles et nous sommes en direct en ce mercredi 12 mars 2025 de 19h à 20h. Une émission que vous pourrez retrouver demain en rediffusion jeudi 13 mars de 9h à 10h sur Radio Galère ainsi que sur Spotify lorsque vous cherchez La Forêt des Possibles. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours, et ce soir, c'est Aix. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leurs engagements et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils et elles seraient comme des arbres isolés, mais ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je suis Marin Moffret, accompagné ce soir d'Elissa Guyon. Bonsoir Elissa.
Bonsoir Marin, bonsoir à tous.
Et de Félix Tédelin en régie.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Félix. Et nos invités du soir sont Lilou de Vavrin et Angelina Rosselli Greco. Bonsoir.
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 Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et vous allez nous présenter l'Association pour la protection de la nature et des animaux, que vous appelez l'APNA, qui est une association environnementale de Sciences Po Aix. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, donc, eh bien, on va remonter un peu le fil de l'engagement et partir de vos projets, de vos aspirations, pour aller vers vos engagements et ensuite vers la manière dont, à votre échelle, vous participez à transformer la société. Et sans plus attendre, eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de vous présenter l'une et l'autre. Est-ce que quelqu'un veut commencer ?
Alors bonjour à tous, je m'appelle Lilou de Vavrin, je suis la coprésidente de l'association pour la protection de la nature et des animaux de Sciences Po Aix.
Merci.
Bonjour à tous, moi c'est Angelina Rosselli Greco, je suis étudiante à Sciences Po Aix au Paul Event de l'association pour la protection de la nature et des animaux.
Paul Event, qu'on aura l'occasion de pouvoir présenter un peu plus tard au cours de cette émission. Mais ce qu'on aimerait pouvoir un peu travailler ensemble au début, c'est que vous nous présentiez en fait quelles ont été les causes de vos engagements respectifs dans une association environnementale. On n'y arrive pas forcément par hasard. Quand on préparait l'émission, Lilou, tu me parlais du fait que tu avais grandi dans une famille qui était très proche de la nature et que finalement c'était quelque chose qui t'avait poursuivi tout le long de ta vie d'étudiante sur la question du respect de cette nature-là, de l'humilité aussi que le surf et l'océan t'ont transmise.
Oui, j'ai eu des parents qui étaient très montagne, donc j'ai passé toutes mes vacances depuis toute petite à la montagne. Et ils nous ont très tôt inculqué que c'était très beau, très précieux, que ça n'avait pas nécessairement besoin de nous parce que c'était tout un écosystème à part entière, indépendant et puissant, mais qu'il fallait y faire très attention parce qu'on avait un pouvoir d'action qu'on surestime très souvent mais qui peut quand même nuire à tout ça. Donc ça a été de suite très important et l'autre partie de ma famille est marseillaise mais aime beaucoup la côte basque, donc j'ai beaucoup fait de surf quand j'étais petite et je trouve que c'est quelque chose qui s'apprend vraiment avec ce sport-là. Le fait que l'océan est très puissant et qu'on est juste passager dessus, qu'on n'a absolument aucun pouvoir. Et je trouve que ça apprend vraiment une certaine humilité et un certain respect, entre guillemets, pour ce qu'on a devant nous, ce qui va avec la beauté du sport aussi. Donc très tôt, ça a été important de protéger, entre guillemets, et j'ai toujours été assez admirative de ce qu'il faisait. Mais je n'avais pas réellement de vision politique du problème et je pense qu'un de mes premiers déclics c'était une COP où comme d'habitude les résultats étaient un peu décevants Et je me souviens, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup choquée de voir que ça n'avait pas l'impact que je pensais que ça avait. Et dans mon cerveau d'adolescente, c'était des chefs d'État qui se regroupaient, donc ça allait forcément aboutir à quelque chose de positif. Et en fait, pas du tout. Donc ça a été un peu un déclic. Et quand je suis arrivée à Sciences Po, on a fait la fresque du climat en début d'année. Mmh. Et au moment où il fallait parler de toutes ces émotions vis-à-vis de ce qui se passait, il y a un de mes camarades qui a dit qu'il était résigné, que ça servait à rien de rien faire parce que c'était trop tard. Et j'ai pas beaucoup de tact. Et sur le coup, ça m'a beaucoup énervée. Donc quand on m'a demandé mes sentiments, j'ai dit que moi, personnellement, j'aimais pas du tout les gens résignés. Et que je trouvais que si on réfléchissait comme ça, on allait tout droit dans le mur. Et je sais que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, j'aimerais bien faire quelque chose à mon échelle. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers l'APNA.
Merci pour ce témoignage, Lilou. Et là, ça pose plein de questions qu'on abordera aussi un peu plus tard sur la question du rapport à la résignation et ce qu'on appelle aussi le triangle de l'inaction, où souvent on se renvoie la balle entre les citoyens, les organisations politiques et les entreprises, où chacun dit bah, c'est la faute de l'autre. Mais ça, c'est pour un peu plus tard. Angelina, on n'a pas eu l'occasion de préparer l'émission ensemble, donc je serais très curieux aussi de savoir quelles ont été les raisons de tes engagements.
Bonsoir. Alors moi, j'ai grandi à La Seyne-sur-Mer chez ma mère et à Porquerolles chez mon père. Donc deux villes très proches de la mer. Voilà, j'ai souvenir de quand j'étais petite, mon père qui m'emmenait le soir voir le coucher de soleil en bateau. Et pour moi, c'est cette impression de merveille face à la nature. Et c'est justement cette volonté de protéger ce souvenir et par ailleurs la nature qui nous surpasse. J'ai voulu m'engager, j'ai fait auprès de ma mairie Brigade Verte pour un festival, ça m'a beaucoup plu. Et donc en arrivant à Sciences Po, j'ai eu envie de m'engager plus par l'association.
Brigade Verte pour un festival, je vois que tu hoches la tête, Elissa. Est-ce que ça fait partie de choses que vous faites, notamment avec Arémax, d'accompagner des festivals ?
Sur beaucoup de festivals, quand on vient avec certains de nos bénévoles, mais d'autres nous sont prêtés par les organisateurs et organisatrices, eux, ils ont ce qu'ils appellent la Brigade Verte, donc c'est la team de bénévoles qui s'occupe des missions environnementales. Normalement, notamment sur l'Insane Festival, on travaille avec la Brigade Verte exclusivement. Donc oui, en effet, je connais bien ces petits bonhommes verts.
Merci pour ce petit point de précision. À vous écouter toutes les deux, en fait, moi, ce que j'entends aussi, c'est un rapport sensible à la nature qui vous touche. Et j'aimerais vous poser un peu cette question. Est-ce que vous avez le sentiment que parmi les personnes qui sont engagées dans votre équipe, c'est un peu un point de ralliement ? Enfin, surtout que le nom est quand même assez évocateur, Association pour la protection de la nature et des animaux. Où maintenant, on peut parler de transition écologique qui peut renvoyer à un imaginaire un peu différent. Est-ce que c'est vraiment le rapport à cette nature, à sa beauté et à l'émerveillement que vous avez ressenti qui fait que ça vous réunit et que ça pousse à l'engagement ?
Bah, je pense que déjà, le nom de l'asso à la base... Enfin, nous, du coup, on ne l'a pas choisi parce que c'est une asso qui se reprend entre étudiants. Et du coup, on en parlera plus tard, mais nous, l'année prochaine, on est à l'étranger, donc on laisse aussi l'asso aux premières années qui viennent de rentrer. Donc on s'est dit quand on arrivait que le nom, ça faisait un peu WWF, honnêtement. Et par contre, c'est vrai qu'il y a ce côté où il y en a beaucoup qui viennent de la montagne ou qui ont grandi dans les Alpes, à Grenoble, etc. Et c'est quand même quelque chose qui se retrouve. Mais au-delà du nom, il y a aussi le... Vu que bah, dans le cadre de l'école, il y a aussi la lecture politique où du coup, il va y avoir le côté COP, écologie... dans les programmes, qu'est-ce qu'on en parle, enfin, oula, comment on en parle, qu'est-ce qu'on en dit. Et donc, il y a aussi ce côté-là qui se retranscrit moins dans le nom. Mais je pense que pour beaucoup de gens, l'origine de l'engagement part aussi bah, de ça, d'un rapport à la nature qui est assez fort depuis petit, ce qui, je pense, façonne un peu tout le truc.
Parce que ça pourrait être une autre cause. Typiquement, moi, ce qui, au départ de mon engagement, m'a vraiment fait me dire il faut faire quelque chose, ça a été la question des limites planétaires et la peur d'un effondrement. Donc, on en arrive sur les mêmes sujets. Mais même si j'adore finalement la beauté de la nature, je pense que ça a été aussi le sentiment d'urgence vitale de me dire si on fait rien dans l'utilisation des ressources, on va crever. Donc je trouve qu'il y a quand même plusieurs portes d'entrée qui arrivent quelque part. Angelina, est-ce que toi tu as cette même grille d'analyse et de lecture ?
Tout à fait. Après, je pense qu'on a également le côté politique et, comme vous dites, limite des ressources. En terminale, on l'a tous étudié et je pense que pour certains, ça a été un déclic de se rendre compte de la catastrophe environnementale dans laquelle on se trouvait. Et je pense aussi que ce qui fait le point fort de l'association, c'est l'émulation collective. Le fait que quand on est tous ensemble, on se rend compte qu'on a tous la volonté de défendre la même cause et donc de se rassembler et d'avoir l'impression de pouvoir agir en étant plusieurs et pas seulement à échelle individuelle.
C'est une transition toute faite sur le passage du moi au nous, sur le fait de passer finalement d'engagement personnel vers des engagements collectifs. Et je vais rebondir sur une des phrases que tu as dites qui est « en terminable, on a tous étudié ». Alors, ça me renvoie au fait que j'ai passé mon bac il y a maintenant 11 ans.
On n'a pas tous étudié.
Mais voilà, on ne l'a pas tous étudié. Moi, j'ai fait un bac S et je n'ai pas étudié cette question-là en SVT à l'époque. On nous parlait évidemment de l'environnement, mais en fait, toute la question du dépassement des limites planétaires, je n'ai pas souvenir que c'était au programme. Et donc, ça pose aussi la question de la transformation des programmes qui sont à mettre à jour et qui est une question absolument brûlante, surtout dans l'actualité où les États-Unis sont en train de mettre une sorte de halo obscurantiste sur tout un tas d'informations scientifiques sur la question des limites planétaires, de justice sociale et puis après toutes les déclinaisons qu'il peut y avoir sur ce sujet-là. Et donc cette émission a vocation à continuer à pouvoir porter une parole qui s'appuie sur des faits scientifiques. Ce que je vous propose pour la partie nous, avec votre asso, c'est de découper un peu en deux bouts, parce qu'il y a ce que vous portez en tant qu'association, et donc on va pouvoir présenter un peu les différentes actions. Et c'est une asso qui est dans le cadre d'un campus universitaire, et c'est aussi intéressant à ce niveau-là de discuter parce que l'action qu'elle porte vis-à-vis de tous les autres qui ne sont pas spécifiquement dans cet asso et la façon dont ils ou elles peuvent percevoir l'environnement, vos actions et l'urgence qu'il y a de s'adapter. Ça vous va comme petit programme ?
C'est parfait.
Et ce que je vous propose, c'est un petit exercice de pitch. J'imagine que vous y êtes préparé. Qu'est-ce que c'est que l'APNA ? Lilou, tu es vice-présidente.
L'APNA, donc c'est une association qui a été montée principalement pour sensibiliser les étudiants, parce que même si on en a tous entendu parler parce que les programmes ont été modifiés, ça ne veut pas dire qu'on en parle bien, ça ne veut pas dire que ça touche et ça ne veut pas dire qu'on en parle assez pour faire changer la manière dont les gens se comportent ou la manière dont ils voient le monde dans lequel ils évoluent. Et pour nous, il y a un peu l'enjeu de... Il y a beaucoup d'étudiants qui auront des postes à responsabilité parce que les études les destinent à ça. Et ce serait pas mal d'avoir des dirigeants qui s'occupent un peu de ce qui se passe au niveau de l'environnement et de la planète. Ce serait super sympa. Et donc l'association, elle est divisée en plusieurs pôles. Il y a un pôle événement qui va organiser des conférences, des ateliers, donc avec Angelina, des projections de films, des expositions. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a un pôle éco-IEP qui a été créé dans le but de verdir l'IEP, entre guillemets, et de travailler sur toutes ces notions-là. Donc par exemple, c'est eux qui ont imposé la fresque du climat en début d'année, ce qui fait qu'à la rentrée de première année, tout le monde passe par la fresque du climat. Il y a un pôle communication, parce que malheureusement ou heureusement, on est obligé de communiquer sur les réseaux sociaux pour avoir une présence un peu continue. Donc cette année, ils ont fait un calendrier pour sensibiliser à Noël avec chaque jour une bonne nouvelle ou quelque chose à savoir au fur et à mesure en décembre. On a une semaine de la Terre qui arrive. Ils sont en train de faire une BD qui sensibilise à ce que va être la semaine, etc. Et après, donc il y a un bureau restreint dont je fais partie qui gère les côtés administratifs et un peu chapeaute le tout pour que ça se passe bien.
Merci pour ce pitch, Lilou. Tu as employé le mot IEP, alors Institut d'études politiques, on est d'accord, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Peut-être que ça peut aussi être l'occasion de présenter ce que c'est que cette IEP, donc Sciences Po Aix, parce que tu disais tout à l'heure que ça préparait à des postes à responsabilité. Donc c'est aussi intéressant de comprendre dans quel cadre s'inscrit cet assaut. Est-ce que, Angelina, tu veux nous faire à ton tour un petit pitch rapide sur qu'est-ce qu'on apprend dans un IEP à Sciences Po?
Tout à fait. Donc, un IEP, Institut d'études politiques, il y en a 7 en France. C'est le réseau des 7 IEP en parallèle de Sciences Po Paris. Chaque Sciences Po a sa particularité et a ses propres programmes. Il faut savoir qu'on ne suit pas tous les mêmes cours selon les Sciences Po. Après, bien sûr, il y a des matières qui se regroupent. Il y a des côtés... La particularité de Sciences Po, c'est un peu d'être pluridisciplinaire, comme on dit. C'est-à-dire qu'on étudie plusieurs choses, à la fois du droit, de l'économie, de l'histoire, les langues. Et après, on va avoir des spécialisations que chacun choisit. Par exemple, nous, cette année, on a choisi la science politique.
Pluridisciplinarité qui est aussi au cœur de l'analyse des questions de transition écologique qui traite d'énormément de sujets puisqu'on parle de la question d'un système et un système, il y a le système Terre et puis il y a le système socio-économique et culturel qui est l'organisation des activités humaines qui ont une incidence sur ce système Terre. S'il y a des personnes qui ont envie d'être un peu inquiètes, je vous invite à chercher sur Internet la courbe de la grande accélération du monde diplomatique où on voit toutes les courbes qui montent en exponentielle sur l'utilisation des ressources, donc ça c'est le système Terre, et sur la façon dont nous, en tant qu'êtres humains, on organise nos activités. Donc vous allez voir plein de critères et toutes les courbes qui montent et... ça prouve effectivement que la question de cette étude de transition écologique, tout est croisé. Donc c'est intéressant quand je fais une sorte de petit rebond sur ce que tu disais sur la question de la transversalité. Ce que je vous propose, c'est dans cet assaut, finalement, on en parlait, Lilou, de nous dire quelles ont été les actions que vous menez. Vous en avez fait un certain nombre. Donc ce que je vais vous proposer, c'est peut-être de les lister, peut-être pas de toutes les présenter, et peut-être... toutes les lister, puis lui en donner une qui vous a marqué. Et ensuite, je poserai ma question suivante sur les pépites et les cailloux, mais on va commencer par laisser les actions.
Alors, je vais essayer de faire vite, mais on a eu une conférence avec Notre Affaire à tous pour parler de l'affaire du siècle et de l'usage du droit vis-à-vis de la question de la triple crise climatique. On a une conférence qui arrive avec Merem Tahar, qui est une activiste qui va parler du combat des femmes au Sahel et des enjeux environnementaux. On a fait une fresque de l'écoféminisme avec l'ONG Climates en février. On a fait une simulation de COP parce qu'on a une asso à Sciences Po qui fait des simulations de l'ONU. Donc on a créé un comité COP et tout le monde a débattu pendant 2 jours. On va avoir un concours d'éloquence sur le thème du climat. On a projeté un film qui s'appelle Dark Waters, je ne sais pas si vous l'avez, mais qui était très bien. On essaye aussi de faire des choses un peu ludiques, entre gros guillemets, pour montrer que l'écologie, c'est pour tout le monde et pour essayer de le répandre le plus possible, entre gros guillemets. Donc, on a fait un after work dans un parc où tout le monde jouait au Molky et buvait des cocktails. Et là, on va essayer de faire un énorme jeu de pistes sur le thème du climat dans tout Aix pour les élèves. Voilà, en gros résumé. Je ne sais pas si Angelina, tu vois quelque chose que j'ai oublié.
Non, je pense que c'est assez bien résumé.
C'est une riche programmation. Ce que je vous propose, c'est chacune de présenter une chose qui vous a régalé de tout ça. Et une, donc ça c'est le côté pépite, et le caillou sur quelque chose que vous auriez envie d'améliorer. Et sans doute qu'un des axes d'amélioration, c'est de toucher plus de monde. Je vous donne des pistes pour répondre sur un truc qui vous a beaucoup marqué et une chose que vous avez envie de porter plus loin.
À toi l'honneur.
On a fait donc la fresque de l'écoféminisme avec l'association Climates, avec 3 intervenantes qui sont venues à Sciences Po Aix nous faire un atelier. Donc l'atelier consistait à à mobiliser des cartes et à les organiser, et à faire des liens en fait entre les différents sujets, entre les différentes crises et discriminations qui touchent notre société. Et donc tout l'enjeu de la fresque était de se rendre compte que les crises étaient liées entre elles, et que la crise environnementale, c'était pas seulement le réchauffement climatique, mais c'était aussi les inégalités sociales, les discriminations, quelles qu'elles soient, le racisme, le sexisme, etc. Et de se rendre compte qu'on n'a pas plein de luttes, mais qu'une seule lutte pour rendre notre société meilleure.
Ouais, c'est la convergence des luttes. Et c'est justement ça qui, en ce moment, est en train d'être attaqué par Donald Trump, qui interdit toutes les études qui emploient les mots écologie, transition écologique, systémie, féminisme, lutte des classes.
Et biais, c'est là qu'il est quand même super fort.
Le mot biais ? Waouh, je l'avais même pas vu. Mais finalement, c'est une façon aussi de jeter un obscurantisme sur cette prise de conscience. Et ce que je trouve assez terrifiant, c'est qu'aujourd'hui, c'est considéré comme woke. Vous m'entendez, vous voyez pas mes mains, mais en fait, j'emploie des guillemets. Mais si on revient à la signification du mot woke, ça veut dire éveil quand même. Et donc, ça veut dire s'éveiller sur une sorte de prise de conscience où on élève son champ de conscience des interactions qui existent entre les sujets et sur la place qu'on prend dans tout ça. Je trouve ça tout à fait lunaire. Donc, merci pour ce partage sur cette fresque de l'écoféminisme, Angelina. Lilou, de ton côté ?
Alors, moi, ce que j'ai adoré, mais c'est très personnel, c'est la simulation de COP. Parce que j'ai été chair et du coup c'est moi
après,
qui...
peut-être juste préciser ce que c'est chair.
Oui, c'est pour ça, j'arrivais. C'est moi qui régulais les débats, donc après avoir appris beaucoup de règles de procédure par cœur. Je crois, 15 personnes qui représentaient chacun un pays au choix et qui du coup devaient débattre pendant 2 jours pour rédiger une COP, là où... Nous, c'était un rôle plus procédural où on leur donnait des pistes, où on essayait de réguler. Et surtout, moi, personnellement, je me régalais à voir tout le monde discuter et ou se taper dessus pour arriver à un accord. Donc, en vrai, je dois dire que j'ai adoré ça parce qu'en fait, j'ai été épatée. Parce que le but de... Nous, on appelle ça un moon, mais c'est... Enfin, en raccourci. C'est de rédiger une résolution qui peut être votée ou pas. Et en fait, je pensais pas que ça allait être si bien. Parce que pour le coup, ce qui est enrichissant, c'est les 2 jours de débat, c'est de rencontrer des gens, de partager quelque chose autour de beaucoup de gens qui sont vraiment animés par du coup cette cause-là. Et en fait, la résolution qu'ils ont faite, je l'ai trouvée incroyable. Et j'étais tellement fière à la fin, alors que j'avais pas participé directement. Mais en plus, on avait fait exprès que ça arrive au même moment que la vraie COP. Donc on était forcément... déçus. Et là, juste, enfin, c'était le lendemain. Du coup, ils ont rédigé une résolution où on s'est dit, mais c'est génial. Et tout en sachant qu'il n'y a pas, enfin, c'est pas rédiger une résolution pour rédiger une résolution, parce qu'ils doivent vraiment tenir la position de leur pays. Donc, il y avait des blocages, il y avait des problèmes. Et vraiment, ils ont fini avec quelque chose que j'aurais adoré présenter pour de vrai. Et donc, il y avait un peu le sentiment de fierté, le truc de passer 2 jours dedans, etc. Mmh. Donc, c'était vraiment un bon moment pour moi.
Tu peux nous en dire un peu plus, peut-être, sur ce qui est ressorti de ces échanges, si tu t'en souviens, s'il y a des éléments que tu peux nous mettre en lumière facilement.
On avait beaucoup parlé des problèmes de santé, par exemple, du fait que... à cause du dérèglement climatique, on allait avoir beaucoup de problèmes de santé, surtout avec tous les gens qui allaient devoir se déplacer. Donc il y a plein de pays qui s'étaient accordés sur les problèmes d'hygiène et comment est-ce qu'on pouvait soit mettre en place un fonds, soit faire des transferts de technologies, transferts de médicaments pour essayer d'arranger la situation globale. Il y avait plein de choses aussi qui avaient été abordées en partenariat avec l'UNESCO par rapport à l'éducation. Et ce qui se retrouve même par exemple chez nous, on est censé en parler beaucoup, on en parle apparemment plus que quand vous avez passé le bac, mais on n'en parle pas forcément bien. Et du coup, il y avait ce truc-là d'un programme élaboré en collaboration, etc. Et il y avait le grand point qui était d'essayer de faire payer la Chine. Et ça, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais ils avaient trouvé un compromis avec... c'était très précis et ils avaient établi des contributions de chaque pays dans le fonds, avec un montant plus élevé que celui qui a été donné. On n'était toujours pas aux 1300 milliards de dollars qui seraient appréciés, mais je crois qu'on était monté à 550 avec le débat de tout le monde, donc ce qui était déjà mieux que ce qui a été adopté à la COP29.
Ce que je trouve intéressant là, dans ce que tu décris, c'est un moon qui est une sorte de reproduction de négociations internationales. C'est de la géopolitique, et c'était le cœur aussi c'est le cœur de vos études à Sciences Po, comme vous nous l'avez présenté. La géopolitique, c'est la politique de la géographie et aussi la politique de la ressource. Et quand on est dans des grands comme ça, organes de discussion, c'est chacun arrive avec ses intérêts, et les intérêts à la fois étatiques de souveraineté, puis ensuite les intérêts économiques d'un certain nombre d'acteurs de ce pays qui ont des intérêts à l'étranger. Est-ce que ça s'est bien mis en valeur quand vous devez faire les débats ? Comment t'expliques que, alors que vous avez conscience, vous, en tant qu'étudiant et étudiante, que vous avez des intérêts à défendre, et j'imagine que celui ou celle qui a représenté la Chine avait une feuille avec écrit tout ce que tu dois défendre à la fin, que vous ayez mieux réussi à défendre l'environnement que celles et ceux qui l'ont fait pour de vrai en même temps ?
Alors, honnêtement, c'est une question compliquée. Mais je pense que il y a quand même un peu de mauvaise foi. En fait, il y a beaucoup le côté publicitaire de on se rend à la COP parce qu'il faut s'y rendre et montrer que ça a de l'importance, mais ça veut pas dire qu'on met de la bonne foi dans les négociations. Alors que là, même si on défend un point de vue, un pays et ses intérêts, on y va vraiment avec l'idée de on a la nécessité d'un compromis. Et on peut dire pour nous qu'il y a une urgence climatique, que c'est très grave et que ça nous inquiète. Mais il n'empêche que le gouvernement chinois, à part pour des idées de soft power, entre guillemets, d'étendre son influence, n'a pas réellement un intérêt à lutter pour la crise climatique. Et je ne crois pas me tromper en disant que ça ne doit pas être dans ses priorités. Donc je pense que la différence, c'était aussi ce truc-là de vouloir un véritable accord de coopération qui a été fait avec la participation de tout le monde, plutôt que de se rendre à un sommet... parce que c'est bien vu de s'y rendre.
Hyper intéressant. Et ce que je trouve intéressant dans ta réponse, c'est quand tu parles de la question de la bonne foi, ça rappelle la question de l'éveil, de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Si jamais on n'est pas convaincu soi-même de l'intérêt de le faire, eh bien, on passe à côté du sujet. C'est aussi pour ça que dans ces émissions, on commence par le moi vers le nous, sur finalement pourquoi est-ce qu'on y va, quoi. Et ce que je vous propose, c'est que le nous vers le tout, on en parlera après la respiration musicale. Angelina, est-ce que tu as envie de nous présenter ce que vous avez choisi de nous faire écouter ?
Tout à fait, on a choisi « J'ai rien prévu pour demain » de Trio, parce que on pense que ça fait du bien pour le moral et d'avoir confiance en l'avenir.
Merci beaucoup, on se retrouve juste après la respiration musicale dans l'émission de La Forêt des Possibles sur Radio Galère. A tout de suite.
Faire un un ami. Où sont les politiciens qui savent que j'existe, ceux qui pourraient dès demain nous mettre sur la bonne piste? J'insiste dès maintenant, je veux voir la liste de tous les anciens du Front de Libération Utopiste qui va se mouiller pour les droits de l'enfant, pour que tout le monde ait droit à un appartement. Apparemment personne n'est prêt à aller de l'avant. C'est vrai que pour pouvoir penser il faut avoir du temps. Le pouvoir,
les dollars,
l'exploitation,
le marché noir,
ça laisse très peu de temps à ceux qui crèvent sur le trottoir.
Plus d'espoir pour y croire, juste quelques cauchemars. Même plus droit à un rêve, juste à une vie illusoire. J'ai rien prévu pour demain, c'est déjà bien d'y penser. Et je pense que demain matin, j'aurai du mal à me lever.
Pourrions-nous avoir du temps pour savoir qui on est, pour s'occuper de nos enfants, connaître nos voisins et pallier, pour que les fêtes du week-end puissent s'étendre à toute la semaine, pour que les connards du FN s'alimentent plus sur nos problèmes. Pourrions-nous avoir du temps pour discuter avec l'ennemi, pour draguer une des caissières qui bosse au Monoprix, pour faire du sport, pour boire un verre, s'occuper de la qualité de l'air, pour aller voir tout là-haut comment va notre univers.
Vous êtes de retour sur Radio Galère au 88.4. Nous sommes toujours en direct de 19h à 20h avec l'association de l'APNA, l'association pour la protection de la nature et des animaux de Sciences Po Aix, avec Lilou de Vavrin et Angelina Rosselli Greco. Et je suis toujours Marin Moffret, accompagné par Elissa Guyon qui cherche son micro, et par Félix Tédelin en régie. Et en première partie, nous avons abordé la question du moi ou nous sur l'engagement individuel qui pousse à l'engagement collectif. Et dans cette deuxième partie d'émission, on va être du nous au tout, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à passer les échelles et faire en sorte que l'amoncellement de tous nos engagements collectifs forme une grande forêt qui soit en mesure de transformer le système. Et ce que je vais vous proposer pour cheminer progressivement là-dessus, c'est, comme on le disait, le fait que vous êtes une association écolo dans un campus qui forme à la pluridisciplinarité. si on veut placer les buzzwords dont on parlait pendant la pause musicale avec Angelina, et aussi sur le fait que c'est formé pour devenir des dirigeants, que ce soit des dirigeants dans les collectivités, que ce soit des dirigeants dans les entreprises, dans les organisations, ou en tout cas des personnes d'influence dans la société. En tout cas, c'est à ça que forment les IEP. Et donc, la question que je me pose et que je vous pose, c'est de savoir si vous avez l'impression que les programmes sont alignés avec ces questions. Et si jamais ma question vous met en difficulté, vous avez le droit de dire joker. Mon but, ce n'est pas de vous inviter à dire des choses que vous n'avez pas envie de dire. Mais en tout cas, peut-être que je peux me positionner par rapport à ça. Moi, je suis d'une génération qui est sortie d'un Master 2 en 2018. Et en 2019, il y a un manifeste étudiant qui s'appelle le Manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui avait été écrit à l'époque signé, c'était une pétition, par des dizaines de milliers d'étudiants qui sortaient de grandes écoles, surtout de grandes écoles d'ingénieurs au départ, parce que c'était quand même celles et ceux qui étaient en premier front de l'analyse de la situation scientifique des faits, et ensuite qui a été rejoint par tout un tas d'autres étudiants qui sortaient de d'autres grandes écoles ou d'IEP ou de fac. Voilà, je voulais savoir si 5 ans plus tard, vous avez l'impression que les écoles se positionnent un peu plus sur ces questions.
Alors, la question n'est quand même pas écartée, mais c'est vrai qu'on désirait avoir plus de cours sur le sujet. En première année, il y a un cours obligatoire qui s'appelle « Droit de l'environnement » à Sciences Po Aix. Alors, il faut savoir que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les Sciences Po, on a des cours différents. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres IEP, mais pour Sciences Po Aix, il y a un cours qui s'appelle « Droit de l'environnement » en première année. Et en deuxième année, pour ceux qui ont la spécialité économie, il y a l'environnement qui est traité. Mais pour nous, c'est pas suffisant. On aimerait qu'il y ait plus de cours dans lesquels la question est abordée. Et on aimerait surtout qu'il y ait un master qui soit dédié, la création d'un nouveau master, pourquoi pas, ou au moins l'intégration de cette question dans les masters qui est assez peu traitée.
Je trouve que ça, c'est... Quand tu parles de l'intégration de la question dans les masters, c'est que finalement, on est toutes et tous impactés par ça, quelle que soit la matière. Comment est-ce qu'on la traite dans les questions économiques, comment est-ce qu'on la traite dans l'organisation du droit. La semaine dernière, j'étais à une conférence, puisqu'on a beaucoup parlé de droit là, jusque-là, sur le droit de l'océan, et notamment le fait de reconnaître la personnalité juridique aux êtres vivants qui se trouvent dans l'océan. Ça, c'est un tout petit bout de la question. Hein. Mais moi qui ai fait 5 ans de droit, je n'ai pas entendu parler de ça, sauf en dernière année de master, quand j'étais à la Sorbonne, mais à Assas, par exemple, ce n'était pas du tout un sujet abordé. Donc je trouve que c'est intéressant que ça se diffuse, en fait, parce que c'est tous nos modes d'organisation de société qui doivent prendre en compte la question du respect des ressources disponibles. Lilou, je voyais que tu avais envie de dire quelque chose.
Juste, je rejoins Angelina sur le fait que c'est pas pareil partout. Et que par exemple, à Bordeaux, ils ont un master sur la soutenabilité qui est que sur ça. Donc, c'est vraiment, c'est aussi chez nous que c'est moins traité. Et après, il y a le côté neutre, entre gros guillemets, où on a été obligé, non, on a été invité de manière répétée à se rendre à une rentrée inaugurale. Enfin, en première année, où chaque année, il y a un intervenant qui change. Et nous, on a eu Yann Aguila, si je me rappelle bien, qui devait nous parler de climat. Et je me souviens que j'avais été très déçue, parce que c'était très classique. C'est la catastrophe, on n'arrive à rien retirer des négociations. Mais ça va le faire, vous inquiétez pas, mais pour l'instant, on n'a pas de solution. Mais on va continuer comme ça, et ça marchera très bien. Et c'était globalement la première fois que j'entendais que l'environnement était mentionné à Sciences Po. J'étais pas trop convaincue. Et après, ce que j'ai trouvé le plus intéressant de tout le cours de droit de l'environnement, c'est justement, tu as fini sur les ressources. Et on avait levé la main en cours et on avait dit, mais madame, le problème, c'est de considérer ça comme des ressources. Et on avait une professeure qui était absolument adorable et qui avait juste le cours qu'on lui donnait et qui avait dit qu'elle était d'accord avec nous et que c'était pas une solution, mais il y avait eu beaucoup de discussions là-dessus. Et je pense que c'est sur ça qu'il peut aussi avoir une différence, c'est sur le fait de discuter directement, que ce soit avec les professeurs, avec les élèves, même si le programme suit pas forcément ce qui est un peu décevant au début.
C'est rigolo parce que j'avais postulé pour un stage avec Yann Aguilla à l'époque où il cherchait un stagiaire pour notamment la rédaction du... je crois que c'était le Pacte mondial pour l'environnement, quelque chose comme ça. Pour le situer, parce que c'est quand même une personne un peu connue, Yann Aguilla, c'est un ancien conseiller d'État, rapporteur du gouvernement, et depuis il est devenu avocat dans un cabinet dont je tairai le nom, et il porte aussi cette question autour de l'environnement. Après, il est aussi porteur de son époque, quoi. C'est-à-dire qu'il est plus âgé que nous, il a une autre vision de l'environnement. Et après, moi, ma professeure de droit constitutionnel nous avait invités à nous poser des questions, quand les personnes parlaient d'environnement, de savoir quels étaient leurs intérêts particuliers derrière, et notamment si jamais il y avait des lobbies qui étaient derrière un certain nombre d'initiatives portées par des personnes, et de savoir si la parole qu'ils portaient était ce en quoi ils croyaient, ou si c'était aussi la défense de certains intérêts au passage. Voilà, je me souviens qu'elle nous avait formulé de manière assez vive, Madame Cordet, le fait de toujours avoir cet esprit critique, de savoir qui finance derrière et quels sont les intérêts soutenus. Voilà, petit appendice. Elissa, je vois que tu me regardes.
Oui, moi je me demande un petit peu, vous nous avez expliqué donc les différentes actions que vous menez au sein de l'école et les discussions presque particulières qu'il faut avoir avec les professeurs ou entre élèves pour peut-être toucher du doigt un petit peu la profondeur des sujets ou la réalité un petit peu plus concrète. Et tu parlais tout à l'heure... je crois que c'était pendant la fresque de l'environnement, où tu décrivais un de tes camarades qui était direct abattu, quoi. Pour lui, ce n'était pas une question. Et ça me questionne quand même. Donc, je rebondis sur cette histoire de chercher les intérêts qu'il y a derrière chaque action mise en place. Comment et d'où est-ce que vous réussissez en fait à garder cet espoir et à vous dire et à continuer à agir dans ce sens, alors que sur plein d'aspects, plein de gens disent que de toute façon, c'est fichu.
Merci pour cette question optimiste.
Alors certains diront peut-être que c'est la jeunesse, mais moi je suis pas sûre que ce soit une question d'âge. Je pense juste que c'est d'avoir confiance envers l'humanité, tout simplement, envers les autres, envers l'émulation collective aussi, de se dire que si tous ensemble on agit, on va s'entraider et on va se soutenir les uns les autres pour pouvoir construire des actions, pour pouvoir, même si on n'est pas d'accord, parce qu'au sein de la question environnementale, même si on est d'accord sur le fait qu'il faut agir, la question de comment agir met beaucoup de personnes en désaccord. Est-ce qu'il faut utiliser les énergies électriques? Est-ce que... quel plafond il faut atteindre pour certains fonds, pour les questions environnementales, etc. Il y a beaucoup de points qui font débat. La question de personnalité publique aussi. Est-ce qu'on peut défendre certaines personnalités publiques ou pas sur la question environnementale? Et donc, c'est le fait d'avoir des négociations, de dire est-ce qu'on est d'accord ou pas, comment agir, qui pourront faire changer les choses.
Pour moi, j'avoue, il y a aussi le côté... c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai un peu... Enfin, en fait, ça m'a fait réfléchir quand t'as dit... moi, j'étais en panique parce que les limites planétaires avaient été dépassées. Et je pense que dans ma présentation, je n'ai quand même pas assez dit que j'étais quand même le genre de personne qui était beaucoup poussée aussi par l'indignation et par le fait qu'on fasse pas assez à mes yeux. Et je sais que je me suis posé la question parce que surtout que... on est grandement conscient, et c'est pour ça qu'on avait hésité et on en avait discuté avant de venir, sur le fait que personnellement, on ne se sentait pas forcément légitime à venir ici parce qu'on touche un public qui est quand même assez restreint et que justement, vu que c'est des gens qui se targuent entre guillemets d'avoir une éducation développée et pluridisciplinaire, l'écologie, c'est un sujet qui revient partout sans être un sujet. Et du coup, ça va pas forcément être quelque chose qui va toucher autant de gens qu'on voudrait et où il va y avoir autant de monde que ce qu'on aurait souhaité en conférence ou qui participe, etc. Mais en fait, pour moi, c'est même pas... En fait, c'est un faux sujet. Parce que si on ne fait pas ça, ça veut dire que moi, personnellement, je ne fais rien alors que je pourrais faire quelque chose sous prétexte que ça n'a pas les effets que je veux. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été important. C'est que je préfère discuter de la fresque de l'écoféminisme avec 15 personnes et pas 40, mais savoir que pour 15 personnes, ça a eu un impact et que ça a eu un impact non négligeable sur moi, parce que je sais que personnellement, on apprend plein de trucs, qu'on n'est pas des pros en ce qui concerne la matière et que juste, on a la curiosité d'essayer de découvrir beaucoup de choses. Donc je pense qu'il y a beaucoup l'aspect de si on le faisait pas, nous-mêmes, on ferait rien et on tomberait dans ce truc-là de se résigner plutôt que d'essayer de faire quelque chose.
C'est la joie dans l'action et la théorie du colibri, ce dont tu parles. Moi, il y a deux choses qui sont deux vraiment grandes théories que j'aimerais pouvoir discuter avec vous sur le temps qui nous reste. La première, c'est l'économie du donut. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ? Ok, et ben, c'est intéressant de voir qu'on ne vous a pas appris ça à Sciences Po. L'économie du donut, je vous le montre comme ça, vous avez sous les yeux, mais je vais aussi vous le décrire pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est une théorie qu'on aborde régulièrement dans cette émission. C'est un concept d'une économiste britannique qui s'appelle Kate Raworth, qui a étudié sur les grands principes de la macroéconomie et notamment des alternatives à la croissance. Et il y a une croissance infinie dans un monde fini qui n'est donc pas compatible avec les limites planétaires. Et donc, il faut s'imaginer un donut. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, imaginez un donut, vous voyez bien qu'il y a un trou au milieu du donut. Eh bien, il y a deux, on va dire, frontières de ce donut. Il y a la frontière intérieure, puis il y a la frontière extérieure. Et toute l'idée, c'est de vivre dans l'espace sûr qui est au milieu. Et donc, quand on est sous le plancher social, donc quand on est à l'intérieur du donut, c'est qu'on n'utilise pas assez les ressources pour subvenir aux besoins des personnes sur les enjeux de nourriture, d'eau, de revenus, d'éducation, d'énergie, d'emploi, d'égalité entre les personnes. Et donc ça, c'est pour tout ce qui va concerner les aspects sur l'humain. Et quand on est au-dessus du donut, c'est qu'on dépasse l'utilisation des ressources et donc qu'on dépasse les limites planétaires. Donc là, c'est des enjeux liés à l'occupation des sols, le changement climatique, l'utilisation d'eau douce, le cycle de l'azote et les 9 limites planétaires, sachant qu'il y en a 7 qui ont été dépassées. Ça, ce qui est intéressant, c'est un peu de l'avoir comme matrice un peu fondamentale dans tout ce qu'on fait. Et donc là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est pas du tout pour vous tomber dessus, parce que moi, j'ai découvert ça assez tard. Hein. Franchement, j'ai découvert ça il y a 2-3 ans. Peut-être 3-4 ans, mais pas plus, c'est de voir qu'à Sciences Po, on ne vous a pas appris ça. Et pourtant, ça, c'est vraiment quelque chose de lié à la transversalité et à la pluridisciplinarité, parce que ça aborde tous les sujets. Mais bon, puisque je vois que vous me dites que vous ne l'avez pas parlé, je vais continuer sur ma deuxième théorie. La deuxième théorie, c'est ce qu'on appelle le triangle de l'inaction, dont on parlait un petit peu tout à l'heure, sur le fait que par rapport à une situation écologique donnée, eh bien, les parties prenantes se renvoient souvent la balle. Les citoyens qui vont dire « c'est la faute de l'État et c'est la faute des entreprises », les entreprises qui polluent trop et l'État qui est trop permissif, les entreprises qui vont dire « l'État devrait davantage nous taxer ou mieux nous accompagner » et de toute façon, regardez, les citoyens n'ont pas envie de changer parce que quand je mets des promos hyper attrayantes dans mes magasins, ils foncent dessus plutôt que de décider de vouloir quelque chose qui est plus respectueux de l'environnement. Et les organisations publiques qui vont dire quand on met en place des taxes, on finit avec les gilets jaunes ou les bonnets rouges, et les entreprises sont inscrites dans un modèle mondialisé. Et si jamais on les impose trop en France, eh bien, derrière, elles vont nous dire qu'elles ne sont pas assez compétitives sur l'échelle internationale. Ce qui s'est passé avec Bernard Arnault, qui nous a dit au début du mois de janvier « Je suis revenu des États-Unis, je suis hyper content de voir à quel point là-bas, il y a un esprit entrepreneur sympa. Et en France, on est trop taxé. Regardez, on n'est pas assez compétitif, on risque de fermer des emplois. Le pauvre. » Donc, j'aimerais vous poser la question de savoir, vous qui êtes vraiment dans un IEP qui forme à justement la prise en compte de plein d'intérêts différents, que ce soit les intérêts des citoyens, que ce soit les intérêts d'intérêts généraux, que ce soit ensuite rentré dans des organisations publiques ou des entreprises, ce que vous avez en tête sur la manière de dépasser justement ce cynisme et ce triangle de l'inaction pour qu'on puisse créer une brèche vers l'action.
Alors pour moi, en fait, je peux je fonctionne pas comme ça, mais je comprends la réflexion. Et je comprends quand il y a certains de mes copains qui sont très anxieux et que c'est très dur pour eux de vivre dans cette époque-là qui donne beaucoup de stress. Quand ils me disent « Mais regarde les chiffres d'émissions de CO2 des entreprises, regarde ce que moi j'émets, comment tu veux que mon action à moi fasse quelque chose ?» Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne peux pas leur reprocher parce que je comprends la logique dans tout ce qui est efficacité et intérêt de l'effort. Et surtout que, comme l'a dit Angéna, il y a ce truc qui est très compliqué de comment est-ce qu'on agit ? Est-ce qu'on fait plein de lois, mais est-ce qu'au final, ça marche vraiment ? Est-ce qu'on repose tout sur les négociations internationales en voyant que ce n'est pas toujours à la hauteur de nos attentes ? Est-ce qu'on fait du tri sélectif parce que... on pense que c'est une bonne chose et après on regarde les émissions de gaz à effet de serre et ça nous déprime. Et pour le coup, moi, la seule solution que j'ai trouvée, et c'est très personnel, mais c'est juste de me dire que si on fonctionne tous pareil et qu'on se dit tous qu'à notre échelle on n'est pas suffisant, on est complètement impuissant. Et c'est quelque chose dont on avait parlé par rapport à l'éco-anxiété, et moi je trouve que c'est la seule solution pour pas tomber là-dedans, c'est de faire quelque chose à son propre niveau, peu importe ce que c'est. Et ça peut être arrêter de manger de la viande, ça peut être participer à la Brigade Verte en festival, ça peut être s'engueuler avec son oncle raciste et climato-sceptique à Noël parce qu'il a dit que ça n'existait pas. Enfin, c'est... chacun peut participer à son échelle sans avoir, et c'est un gros problème, et du coup c'est ce qui est aussi pointé, bah, même dans l'IEP, avec ce truc de vous nous obligez à agir, vous voulez nous enlever nos modes de vie, etc. Et c'est quelque chose où c'est très compliqué de gérer avec, parce que ça va générer beaucoup de colère en face, parce qu'il y a le côté de on nous prive de notre liberté, alors qu'il y a des choses sur lesquelles, pour moi, c'est important d'avancer, qui dépassent la liberté personnelle dans la situation un peu critique dans laquelle on est. Mais je pense que c'est juste de faire chacun quelque chose à son échelle, pour essayer de pas subir totalement. Parce que on a un pouvoir de vote, on a un pouvoir sur comment on consomme, sur où on achète. Donc c'est des choses qui peuvent nous sembler minimes, mais qui sont déjà très importantes en soi. Et donc en plus de ça, de faire quelque chose, peu importe ce que c'est, même si c'est juste du tri sélectif, et d'être conscient de ce qui se passe, je pense que c'est juste les premiers pas pour aller vers... ça va faire très cliché, mais vers un monde meilleur.
Conscient, donc éveillé, donc woke, si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure.
Et même pour une santé mentale plus apaisée aussi, moi je rebondis sur ce que tu racontes, parce que c'est littéralement la manière dont j'ai réussi à calmer mon angoisse permanente et perpétuelle de « mais en fait ce n'est pas assez, oui ce n'est pas assez, mais c'est ce qui est à ma portée, c'est mes moyens et je fais ce que je peux ». Et en fait, oui, comme tu dis, si on se met tous à faire ce qu'on peut, juste ce qu'on peut, on ne peut pas tout faire, bah, ça ira déjà mieux. Alors, est-ce que ça nous sortira de la panade en un claquement de doigts ? Sûrement pas, il y a toujours des efforts à fournir et on peut toujours faire plus, mais merci pour cet enthousiasme dans l'action.
Angelina ?
Je rejoins totalement Lilou, ce que j'aimerais rajouter, et je pense que ce qui est important aussi, et ce qu'on doit prendre en compte, c'est les incitations. C'est-à-dire que si on arrive à changer le fonctionnement pour qu'on soit incité à agir de manière cohérente avec la crise environnementale, ça pourra changer les choses. Par exemple, si demain, pour aller à Paris, prendre le train revient moins cher que prendre l'avion, ben, beaucoup de gens changeront leur manière d'agir. Donc, c'est voilà, travailler sur ces incitations. Et ça passe peut-être en faisant pression, en continuant à faire des conventions collectives, en continuant à agir, en continuant à se mobiliser, en continuant à aller en manifestation.
Voilà. On retombe un peu sur l'idée de la bonne volonté, ouais. Finalement.
Ouais. Et bonne nouvelle de la semaine, Vueling a arrêté son trajet entre Madrid et Barcelone, parce que le train finissait par avoir toutes les personnes qui... Enfin, les personnes prenaient très majoritairement le train, donc la ligne d'avion n'était plus rentable pour Vueling, et donc ils l'ont fermée. Voilà, c'est donc la preuve que quand on dit toujours « l'avion partira sans nous », bah, au bout d'un moment, quand il n'y a vraiment personne qui le prenne, ils finissent par fermer les lignes. Ce que je vous propose aussi pour aller vers l'action, et je vois l'heure qui file, c'est de pouvoir un peu se projeter. C'est la question surprise. Je ne t'avais pas dit qu'il y avait cette question surprise parce que c'est le principe même d'une surprise. Je vais vous inviter à fermer les yeux Et oui, tout de suite. Et à vous imaginer que nous sommes en 2035. Et en 2035, vous avez réussi. Et j'aimerais d'abord que vous commenciez par ça, vous dire que vous avez réussi. Et donc j'aimerais d'abord que vous puissiez vous imaginer le sentiment que ça vous procure que d'avoir réussi, de voir un peu quelles sont les sensations qu'il y a autour de vous, les bruits, les odeurs, les discussions que vous avez avec les gens qui sont autour de vous. Et sur la base de ce sentiment, ensuite, vous allez commencer à vous promener là où vous êtes et vous allez nous imaginer ce que c'est que d'avoir réussi. Ça veut dire quoi pour vous réussir la transition écologique ? Et on est toujours ici à Marseille, on est toujours ici vers Aix. Et progressivement, vous allez revenir et vous allez nous présenter d'abord ce que vous avez ressenti et puis ce que vous avez vu. Ça veut dire quoi réussir la transition écologique en 2035 ?
Moi, très honnêtement, je me suis vue sur le vieux port de Marseille en train de marcher au bord de l'eau. L'eau n'était pas polluée. Et ce que j'ai surtout vu, c'est cette bienveillance entre les humains qui se baladaient sur le quai. On était tous là à se dire bonjour, à être simplement heureux de vivre. Et pour moi, c'est ça, c'est la bienveillance et la solidarité.
Et ça t'a procuré quoi comme sentiment ?
L'impression d'amour de soi et de l'autre.
Merci.
Moi, j'avoue, je ne suis pas très originale. C'était la première fois que je venais à la Friche aujourd'hui. Et du coup, moi, je me suis imaginée à la Friche. Parce que quand je suis arrivée, c'était vraiment une sensation de paix. Et je pense que j'aime beaucoup les idées qui sont partagées ici. Et du coup, je me suis imaginée à la Friche en train de boire une bière sous les petites lampiottes en été. Et c'était un peu le sentiment de paix, de savoir qu'on a fait la bonne chose. Et je pense que c'est quelque chose qui est primordial et que surtout nous, à l'âge qu'on a, mais évidemment vous aussi, ce serait bien de garder en mémoire, c'est de vivre en accord avec ses convictions. Et je pense que c'est quelque chose qui est primordial, qu'on oublie trop souvent, surtout dans le domaine de la politique. Et moi, j'ai été plus en paix d'avoir vécu avec mes convictions, peu importe le résultat au final.
Eh bien, merci beaucoup. L'appel, amour, je trouve que c'est un bel appel d'espoir sur la fin de cette émission. Merci Lilou, merci Angelina, merci Elissa, merci Félix pour cette émission de La Forêt des Possibles où vous êtes venu nous présenter l'Association pour la protection de la nature et des animaux à Sciences Po Aix. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une prochaine émission. À bientôt, bonne soirée.
Merci, bonne soirée.